Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Arrivé rue du sergent Blandin, elle le conduit dans un passage qui sert à aller à la rue de la Martinière, qui est parallèle à la rue du sergent Blandin. Le passage se trouve dans un petit immeuble. Il est en ogive et le sol, c'est des plaques de pierre, de grandes plaques de pierre usées. Au début du passage, Sweety se penche sur une dalle en pierre qui a un crochet en fer rouillé. Elle lui dit « C'est ici ». Il se penche aussi. Elle quitte son sac à dos, le met à terre. William lui demande « Et si on se fait attraper ?» Elle lui dit « Non, tu penses, personne ne sort à cette heure-là. Les gens ont trop peur. » Elle ouvre son sac et en sort une barre à mine, un burin et un marteau, une grosse corde et un crochet. Elle accroche au bout du crochet la corde. Elle prend la barre à mine, la met dans le crochet de la dalle. Se lève et dit « Aide-moi à soulever la dalle. » Ils se mettent à deux à maintenir la barre à mine. Il n'y arrive pas. William lui dit « Il faudra la déceler. » Elle lui dit « Tu as raison, lâche la barre. » Et William se penche et avec le burin et le marteau, il tape. Il tape autour de la dalle pour la déceler. Pour retirer la terre, la saleté qui est autour. Ça fait un bruit de ferraille qui résonne. La porc est chaud. Sweety regarde autour d'elle. Une fois qu'il a fini, le tour est bien lisse, il s'est arrêté. Je crois qu'on peut essayer cette fois. Il remet la barre à mine et le crochet sur la barre à mine du coup. Il remet la barre à mine dans le crochet, se redresse et aidé de Sweetie, ils essayent, c'est de soulever la dalle. C'est difficile et ça ne bouge pas. C'est trop lourd. Mais au bout d'efforts, la dalle se soulève, se décèle. Elle n'a jamais été bougée. Petit à petit, la soulève de plus en plus. William dit à Sweetie, venir soulever la dalle avec la barre à mine et moi je vais la déplacer à la main. C'est ce qu'ils font, avec beaucoup de peine, parce qu'elle est trop lourde. Une fois qu'il l'a déplacée, en la posant sur le côté, Sweetie lâche sa barre à mine. La dalle levée laisse un trou noir. Il se dégage une odeur d'égout très désagréable. William se retire et dit, ça sent mauvais. Sweetie sort de sa lampe une lampe de poche et se penche sous le trou. Elle voit que c'est une paroi brute comme une cheminée. Au fond, c'est noir. Liam lui dit, c'est profond, tu crois? Tu crois qu'on peut y descendre? C'est peut-être dangereux. Sweetie cherche à terre un caillou et le jette au fond du puits. On a entendu qu'il est tombé profond. Elle lui dit, on essaye, allez. Elle range dans son sac la barre à mine, le burin et le marteau. Elle donne une deuxième lampe à William et une corde. Dans le trou est accroché en haut par le crochet qui est au bout. Elle met son sac à dos sur le dos et dit, allez, on descend. Et descendre le long de la corde. Elle descend la première, la lampe entre ses dents. Ça sent une humidité très forte. Elle en entend des gouttes d'eau. William la laisse prendre un peu d'avance pour pas lui tomber dessus. Lui aussi a la lampe sur la dans la bouche. Il ne voit rien. Le trou rétrécit petit à petit. Et le noir est de plus en plus sombre. Il fait de plus en plus humide. William lui dit, la corde ne sera peut-être pas assez longue. Elle lui dit, nous verrons. Il continue à descendre. Thank you. Puis, dans le noir, Sweetie sent à ses pieds toucher le sol, un sol visqueux, humide. Elle lui dit, j'y suis arrivée. Tu vois, il n'est pas si profond que ça. Elle se met sur le côté pour le laisser descendre. Il la rejoint, essoufflé. Il la rejoint, essoufflé. Il lui demande, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Elle regarde autour d'elle, avec sa lampe, et lui dit, nous allons voir. La paroi, c'est comme de la pierre, mélangée à de la terre. Elle regarde bien, et voit, il y a un trou dans la paroi. Un trou, comme si on avait creusé pour se faire un passage. Elle va vers ce trou, qui est à 1 mètre du sol. Elle regarde et dit, il y a un trou, il va plus loin, c'est un tunnel, viens. Le trou a juste ce passage pour laisser passer un homme. Il est très profond en longueur. Elle entre dans le trou et avance sur le ventre. Il la suit. C'est humide. Et c'est de la terre mélangée à la pierre. Il fait de plus en plus chaud. Il fait noir. Dans la lampe, il n'y verrait rien. Et il continue à avancer. Il fait de plus en plus chaud, humide. Ils sont essoufflés. William se demande s'ils vont pouvoir retourner à la surface. Cette téméraire Sweetie va me rendre, ne se rend pas compte des difficultés. Enfin, Sweetie arrive au bout du passage et tourne la tête là, et tombe la tête première à terre dans un trou noir. William tombe à terre à côté d'elle. Il lui demande, où sommes-nous? Elle lui dit, je ne sais pas. Elle regarde autour d'elle avec sa lampe. Et c'est une pièce carrée en terre. Il voit qu'il y a un passage comme une ouverture, une porte. Elle lui dit, il y a un passage là. Il se lève. Et ils vont. Ils s'y engouffrent. C'est un passage pas bien large qui descend en pente douce. Le sol, c'est de la terre. Arrivé à un moment, le couloir, si l'on veut, tourne à droite. Sweetie marche toujours devant. William l'a vu s'enfoncer dans le sol. Il a tout juste le temps de se pencher qui avait disparu. Sweetie! Il regarde le trou où elle est tombée. Avec sa torche, il ne voit rien que du noir. Affolé, Sweetie, Sweetie, tu m'entends? Rien. Sweetie, Sweetie, rien. Il ne sait que faire. Mon Dieu, elle a disparu dans ce trou. Qu'est-ce que je vais faire?
Je regarde le trou.
Qui n'est guère plus grand que la largeur d'un homme. Elle n'a pas vu le trou parce qu'il était recouvert de terre, denté, aplati. Il se dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Il faut que j'aille la chercher. Elle est peut-être blessée. Ça donne du courage. Allez, une aventure de suite en plus. Allez, allons-y. Et il s'engouffre dans le trou. Les jambes, la première. Une fois que le corps est entré, il tombe comme une pierre. Rien ne l'arrête. C'est une descente vertigineuse. Il ne peut même pas chercher à s'agripper. Sa descente est accélérée par un vent qui l'aspire. Il n'a pas le temps de rien. C'est le trou noir. La descente continue dans ce trou noir. Puis, tout à coup, il tombe comme s'il tombait sur un matelas. Il rebondit une dernière fois. Oh! Tomber définitivement à terre, une terre molle. Il fait noir autour de lui, il est essoufflé. Ça s'est passé si vite qu'il n'a pas eu le temps d'avoir peur. Il est en sueur, le corps qui bat très fort, comme après un gros effort. Il pense à Sweetie. Sweetie, tu es là? Sweetie! Pas de réponse. Il sait que faire. Il sent qu'il y a un petit écho. Sweetie! Tu peux me parler? Sweetie! Rien. Il se dit qu'elle est peut-être tombée plus loin. Alors, il avance, les bras en avant, dans le noir. Sweetie! Sweetie! Rien. Il avance comme ça, les bras en avant, les yeux écarquillés, le sol est mou, mou. Ça sent l'humidité et il fait lourd. Dans le noir, il voit une lumière blanche. Il s'avance vers elle. Et plus il avance, plus il voit que ça le mène à une galerie éclairée. Peut-être que Sweetie y est. Il y va. Il voit que c'est une galerie assez large et longue, est éclairée par des torches accrochées au mur. Le plafond est en ogive. Le mur est en pierre couleur terre marron. Il avance. Il se demande qui a pu éclairer toutes ces torches le long de la galerie. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il avance. La galerie est longue. Il se demande où il est tombé. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Il regarde bien autour de lui. Tout à coup, il entend un bruit étrange, une musique qui vient de loin. Cette musique lancinante semble entourer, ou plutôt envahir son corps doucement, tout doucement. Elle entre en lui et le berce. Ils se sent léger, léger. Il ne peut penser. Il a l'impression qu'il va s'envoler. Il ne sait plus. Il ne sent plus ses pieds. Pourtant, il continue à marcher. Tout flotte autour de lui. Puis, il se sent fléchir et tomber comme un pantin. La musique l'a complètement envahi. Et c'est le trou noir. Il s'y laisse tomber avec délice. Puis, la musique revient, comme en écho. Et plus rien. Puis, petit à petit, il entend du bruit, comme le bruit de la rue. Le bruit de la rue, et en plus, plus de bruit de voix. Que de la circulation. On entend même des trompettes. Ces bruits deviennent sourds. Et il se réveille. Une lumière dorée, et petit à petit, il voit un bout de façade, de maison, une fenêtre de la rue. Il se réveille petit à petit, et voit que ce qu'il voit, est un mur de façade, de maison, en ruine. Il se réveille complètement. Et là, il voit avec surprise qu'il est entouré de ruines. Il se lève complètement et voit qu'il est au milieu d'une place entourée de ruines. De ruines. Qui ont l'air en vrai. Il y a des ruines avec des colonnes grecques, des marches qui mènent en haut d'une plateforme où se trouve une grande statue qui semble de marbre représentant un jeune homme nu. Debout, le visage qui regarde le ciel en haut, sans lever la tête. Il a un pied légèrement replié, celui de droite, et sa main droite porte une épée. D'autres statues se trouvent au milieu de ces ruines, d'édifices, de maisons. William se demande où il est. Où suis-je? Il regarde autour de lui. C'est mieux que Pompéi. Mais quelque chose cloche et comprend qu'en haut, ce n'est pas le ciel, mais le plafond d'une grotte. Ces ruines sont dans le sous-sol. Il marche vers les longs et larges escaliers qui mènent à la plateforme où se trouve la statue. L'air est doux. Il monte les escaliers. Arrivé en haut, la plateforme semble plus grande et assez haute. La statue est immense. Elle fait la hauteur d'un immeuble de 7 étages. La plateforme a la dimension de la place des terreaux. Je vous donne des exemples parce que vous ne pouvez pas voir. Il voit qu'il est assez haut pour voir ce qui l'entoure. Et voit qu'autour de lui, en bas, à ses pieds, se trouve une immense ville antique, en ruine, mais bien conservée tout de même. Ça lui semble aussi grand que ce que l'on voit de l'esplanade de Fourvière. Il se dit que ces ruines sont aussi grandes que la ville de Lyon, que Lyon recouvre une ville antique. Il se dit que c'est prodigieux. Puis se demande comment, ou plutôt d'où vient cette lumière blanche qui éclaire toutes ces ruines. Et s'il y a de la lumière, c'est que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui éclaire tout ça. Peut-être que c'est habité. Il regarde encore une fois autour de lui et décide de descendre et de chercher. Il descend les marches. Il se retrouve sur la place. Là, traverse la place et voit qu'il y a plusieurs voies d'aller entre des rangées de ruines. Décide de prendre la voie qui lui semble la plus grande. Il s'y engage. Il y a des ruines de maisons plus ou moins importantes, de gros blocs de pierre qui sont tombés sur la voie. Il les contourne. Semble vide, silencieux. Dans les ruines, il n'y a aucun squelette. Aucun des bruits de choses, meubles, ustensiles ou autres. Il continue à marcher pendant un moment et la voix s'arrête d'un coup au milieu d'une place. Très grande, il y a sur la place, sur un espace de palais antique avec des colonnes sur le devant, des escaliers pour y accéder. Ça semble être un temple. Celui-là, à part le toit, il a l'air d'être en bon état. Il décide d'y aller, d'y rentrer pour aller voir. Il monte les marches. Entre dans le temple. Par l'ouverture de la porte, La pièce est en demi-cercle. Il y a des colonnes autour, sur le sol en mosaïque dorée, est dessiné un immense soleil. Au milieu de la pièce, il y a une immense main ouverte en pierre, les doigts légèrement recourbés, et sort de la main un infime nuage, une infime fumée, très infime, comme du fluide. Vois ça, ébloui. Il est à côté de cette main ouverte, cette immense main qui pourrait prendre facilement, entourer 5 ou 6 personnes comme lui. Il fait le tour de la statue. Regarde cette fumée, presque transparente, qui sort de la main et disparaît dans l'air à peine 1 mètre de la main. Ça a un côté étrange, envoûtant, comme la musique qu'il avait avant de venir ici. Puis, il voit sur les parois des inscriptions et des dessins en fresque. Les fresques représentent des hommes, des femmes à l'antique qui sont regroupés devant un immense soleil. Au-dessus, il y a des inscriptions écrites en grec, semble-t-il. La fresque est en mosaïque et fait le tout tour de la pièce pour se regrouper sous le soleil qui est derrière la main. William se dit que ce doit être un temple pour un dieu solaire. Mais chose étrange, la main et cette fumée qui semble être un fluide. D'où vient cette fumée? Il regarde bien la main. Elle est posée sur un socle de marbre blanc. Il ne voit rien. Il se met devant la main. Essaye de soulever pour voir ce que c'est. Peut-être que la main a un trou. Il essaie de monter sur la main et d'y aller voir, mais c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'appui. Il arrive à se hisser sur la main. Il a tout juste le temps d'être debout qu'il voit avec effroi les doigts se resserrer et d'un geste le pousser à terre. Se retrouve à moitié assommé. Cette main de pierre est vivante. Il panique et se sauve en courant. Il court. Pendant 10 minutes dans les voies de la ville, puis s'arrête et se dit « Je dois rêver, j'ai dû être assommé en tombant tout à l'heure, et je rêve. » Et il se remet en marche. Mais, malgré lui, il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression que cette ville est devenue hostile, que ces pierres, ces ruines le regardent, lui veulent du mal. Il a l'impression que cette ville morte a un esprit qui le surveille, que ces pierres le regardent, ne pas regarder les statues, parce que leurs yeux semblent hostiles. Il marche au hasard. Il y en a assez de cette ville en ruine, de cette lumière blanche. Tout à coup, il n'entendait pas. Il n'entendait pas derrière lui. Il se retourne et ne voit rien. Les pas continuent. Ses pas se rapprochent de plus en plus. Alors, lui aussi se met à courir. Et plus il court, et plus il entend les pas. Il a peur, son corps bat très fort. Les pas sont de plus en plus forts et résonnent de plus en plus dans sa tête. Les pas sont de plus en plus forts et de plus en plus forts. Il court. La ville lui semble immense, sans fin. Mais peut-être qu'il tourne en rond. Et comment le savoir lorsque l'on est apeuré, de plus en plus essoufflé, et pas continue de courir après lui. Tout d'un coup, le souffle court. Il tombe et perd connaissance. Les pas se rapprochent. À la cadence des battements de son corps. Plus rien. Il reste la tête à terre, les yeux fermés, un grand vide. Petit à petit, un bruit de foule vient à lui, comme un vent léger, et entre en lui. Ces mêmes bruits de rue que tout à l'heure. Un bruit de foule. Il ouvre les yeux, se redresse et voit que la rue est vide. Mais il sent autour de lui cette foule qui ne voit pas, il la sent, elle est tout près. Elle est comme un aveugle dans la rue qui entend le bruit qui l'entoure. Mais il est pire qu'un aveugle parce que lui voit le décor mais pas ce qui vit. Cette ville qui est autour de lui, il sait qu'elle vit, qu'elle brouille de monde. La preuve, ces bruits, cette fumée, cette clarté. Et puis, il les sent. Il est frôlé par eux. Il est sûr d'être vu. Mais lui ne voit rien. Pourquoi ne les voit-il pas? Qui sont-ils? Ont-ils des pouvoirs? Quelle est cette ville sous la ville? Se demande si on lui veut du mal. Il ne sait plus où aller, comment passer, se faufiler dans cette foule invisible. Il est là, debout, tremblant. Il s'est dit qu'il est devenu fou, que ses sens sont déréglés, qu'il est rue de la République en pleine journée. Il veut retourner à la vie réelle. Mais comment? Il est peut-être prisonnier à vie de ce monde. Comment le savoir? Il étouffe. Puis il décide de marcher pour trouver une issue. Il marche au milieu de cette foule invisible. Puis, tout d'un coup, le bruit de la foule s'évanouit. C'est évanoui comme un écho. C'est le vide, le silence, le plus complet. C'est encore plus terrible que le bruit, parce qu'il se demande ce qui se prépare. Il marche. Et d'un coup, un vent terrible, une tornade l'entoure, elle éjecte, le pousse, c'est un souffle immense. Qui soulève tout sur son passage. Se laisse soulever, enlever. Il souffle, se laisse soulever. Le vent est un tourbillon de poussière. Petit à petit, ça s'assombrit. Il fait de plus en plus noir. Il est poussé. Il a des difficultés à respirer. Il est roulé. Maintenant, il fait complètement noir. Il n'entend que le bruit du vent. Puis, il est poussé à terre. S'est apaisé. Il est dans le noir. Le silence se soulève, ne voit rien. William, William, tu es là? C'est la voix de Sylvie. Oui. Il est vu par une lampe de poche, se soulève. Elle lui dit, enfin, tu en as mis du temps. Je suis tombé et j'ai retrouvé ma lampe à terre. William lui demande, et où étais-tu? Elle lui dit, eh bien, ici. Il lui dit, tu n'as pas vu la ville? Quelle ville? La ville sous terre. Non, je n'ai rien vu. Où est-elle? Je ne sais pas. Je me suis réveillé après avoir tombé et j'ai vu une ville en ruine. Elle lui dit, savez, mon pauvre William, où est ta semaine descendant? Il lui dit, pourtant j'ai bien vu, c'était bien réel. Alors, où est-elle? Il lui dit, plus loin, je ne sais pas. J'étais poussé par le vent. Tu as bien vu ce grand vent. Elle lui dit, tu n'as rien entendu du tout. Tu as dû vraiment rêver. Non, je n'ai pas rêvé. Cherchons. Elle regarde autour d'elle avec sa torche et voit que c'est une grotte sans issue. Et lui dit, il doit bien y avoir une issue. Il fait le tour de la grotte, touche le long des parois, mais ne trouve rien. Il regarde sur le sol, en haut, ne voit rien, à part le passage qu'ils ont pris. Elle lui dit, tu as dû rêver. Il lui dit, c'était tellement réel, je croyais que c'était vrai. Il soupire et lui demande, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle lui dit, il va falloir remonter et chercher une autre issue. Il lui demande, comment? Elle lui dit, nous allons escalader la paroi et repasser par le trou. Ça ne va pas être facile. La paroi n'est pas lisse. Il y a des bouts de roches et de cailloux qui dépassent. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, plus enseigne, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.